you really ready?
You can't be serious. You cannot be serious.
Excusez-moi.
Oui.
Ça vous dirait de prendre un café?
Je peux pas, j'ai tennis.
J'adore le tennis.
Bonjour à toutes et tous. L'actualité du tennis en Haute-Garonne et tout autour, c'est maintenant sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Fin de saison sur le circuit professionnel. Les dames disputent cette semaine le Master féminin à Fort Worth, Texas. Les 8 meilleures joueuses mondiales réparties en deux poules s'affronteront en round robin pour désigner les 4 demi-finalistes. Les vainqueurs se retrouveront en finale le 7 novembre. Sixième joueuse mondiale, Caroline Garcia s'est qualifiée pour ce Master après une saison exceptionnelle débutée en janvier à la 69e place. Avec 3 titres en simple, Bad, Hambourg, Varsovie et Cincinnati, elle s'installe dans le top 10 en septembre.
Wow !
Au 31 octobre, seules deux autres Françaises figurent dans les 100 premières mondiales du classement WTA. Alizé Cornet, 36e, Diane Paris, 65e, inquiétant. Reste encore 7 tournois à disputer en 2022 pour améliorer les palmarès, dont un WTA 125 en Andorre du 28 novembre au 4 décembre. Chez les messieurs, le dernier classement mondial est toujours très largement dominé par les États-Unis, avec 12 joueurs dans le top 100. Le podium est complété par la France, 11 joueurs, et l'Espagne, 9 joueurs. La place de numéro 1 tricolore revient à Arthur Rinderknecht, 27 ans et 42e mondial. Peu médiatisé, le Varois n'a vraiment débuté sa carrière professionnelle qu'à 23 ans. En octobre 2013, son tout premier classement ATP le positionnait à la 1786e place. Installé aux États-Unis de 2014 à 2018, il est diplômé de l'Université du Texas de College Station. Les Haut-Garonnais s'accrochent dans le top 100 mondial. Benjamin Bondy, 62e, Hugo Gaston, 84e, après avoir obtenu son meilleur classement, 58e en juillet dernier. En double, Fabien Reboul pointe à la 65e place, suivi de près par Sadio Doumbia, 70e.
15-0.
La saison 2023 va débuter le 29 décembre en Australie avec une nouveauté, l'United Cup. 18 pays, des équipes mixtes, 4 dames et 4 messieurs, répartis en 6 groupes de 3, qui se rencontrent sur 2 simples dames, 2 simples messieurs et un double mixte. Brisbane, Perth et Sydney accueilleront chacune 2 de ces 6 groupes. À partir du 6 janvier, les vainqueurs des groupes se rencontreront pour désigner 3 qualifiés pour le Final Four avec le meilleur 4e. Finale le 8 janvier. Près de 70 tournois ATP compléteront la saison des messieurs, avec une 60aine chez les dames du circuit WTA.
15 ans.
Tous ces joueurs professionnels ont été confiés dans leur jeunesse à des éducateurs qui les ont accompagnés vers le haut niveau. Dans l'ombre, avec humilité, patience et obstination, ces entraîneurs prennent en charge les jeunes espoirs. À Rieux-Volvestre, nous avons rencontré un de ces pédagogues. Dans son livre « Des mousquetaires à Federer », l'incontournable Georges Deniau parle d'un moniteur merveilleux pédagogue qui faisait notre admiration par ses talents de jongleur. Nous recevons Jean Delage, 92 ans, qui va nous raconter son itinéraire peu commun. Cher Jean, merci de nous accorder quelques minutes pour nous évoquer votre incroyable carrière tennistique que vous avez débutée à un âge où certains y mettent fin.
Donc j'ai commencé le tennis, j'avais 30 ans exactement. En 6 ans, je suis monté à 2/6e et de là, un jour, j'ai reçu un coup de fil de Georges Deniau qui était au Lys Chantilly, qui me téléphone en me disant « Jean, je suis au courant de tes résultats de ton diplôme et puis je te sollicite si tu veux bien venir travailler avec moi au Lys Chantilly ». Donc j'ai travaillé pendant 10 ans au Lys Chantilly. Et de là, pendant cette période, la fédération, à ce moment-là, m'a appelé...
Philippe Châtrier.
Philippe Châtrier, exact, pour m'occuper donc de l'équipe de France cadet.
Ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'en en moins de 10 ans,
oui.
vous êtes passé du statut de non classé
oui.
à 2-6. Bon, on va rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait que 9 échelons dans les classements. Hein. Ça commençait à 30, 15-4, hein? 15-2, 15, 4-6, 2-6, 0, moins 3-6, moins 15.
Voilà.
Ensuite, les premières séries. C'est quand même un exploit. Imaginons-nous quelqu'un à 30 ans à notre époque, passer de non classé à, on va dire, à une équivalence de 15, c'est étonnant. Mais pour moi, ça n'a rien d'étonnant parce que vous avez eu une carrière de footballeur
oui,
auparavant.
Oui. Exact. Alors, j'ai commencé dans un patronage catholique à Paris. Il y avait une équipe de football d'un niveau, d'ailleurs, on était champion de Paris pendant pas mal d'années.
Donc, vous avez été contacté par la Fédération française de tennis
oui.
qui vous a proposé d'encadrer des jeunes. Les cadets, c'est
les
ça.
Les cadets, oui.
Donc, quelle était votre mission et votre rôle au sein de la Fédération française de lawn tennis
oui.
C'était le nom à l'époque, parce que cette fédération s'est appelée Fédération française de tennis qu'à partir de 1976. Alors, quel était votre rôle auprès de tous ces jeunes talents?
De tous ces jeunes, j'ai été donc chargé de leur faire faire tous les tournois de la région. On avait même été en Suède, en Belgique, tout ça. Et puis de là, il commençait à s'éclore petit à petit. Et j'ai eu la chance de tomber sur Christophe Cazard, qui a quand même été champion du monde cadet junior. Quand même, c'est pas négligeable. Et sur les 6 que j'avais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont passés en première série.
Et vous êtes toujours en contact avec eux? Vous savez toujours
c'est
ce qu'ils font?
C'est eux qui, voilà, de temps en temps, un coup de fil, tout ça, ce que je deviens, tout ça, voilà.
Donc ensuite, vous avez donc quitté le giron de la Fédération française de tennis pour vous orienter vers une carrière d'enseignant de club.
De club, et puis de là après, j'ai été au club Ulysse Chantilly.
En région parisienne.
En région parisienne, avec Georges Degnaud, pendant 5 ans.
Ensuite, vous êtes parti dans le sud-est de la France. Sur la Côte
oui,
d'Azur.
Je suis parti après à Jean-les-Pins, où j'ai travaillé dans un club pendant 10 ans, où j'avais 250 enfants. 250.
En effet.
Même pas mal de résultats. De là après, j'ai quitté, au bout de 10 ans, où j'étais, là, pour aller à Ajaccio.
D'accord.
Et à Ajaccio, j'ai formé donc des jeunes. Alors là, je me suis retrouvé encore avec 250 enfants
oui.
D'Ajaccio, de Corse, tout ça.
Ajaccio est le très gros club corse.
Tennis club d'Ajaccio.
Oui. D'ailleurs, vous avez, quand on recherche un peu sur Internet, on voit que vous avez performé là-bas, parce qu'en parallèle de votre carrière d'enseignant, vous avez quand même été champion de Corse
oui.
des plus de 55 ans en 1992.
Ah oui, oui.
Et finaliste en 91 et 94. Mais comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Votre fille Nathalie, qui est aussi une très bonne joueuse de tennis, elle a été titrée en Corse championne en 1990, puis de 1994 à 1996 en plus de 35 ans. Donc vous êtes resté une bonne dizaine d'années à Ajaccio.
Ah oui, plus que ça même. Je suis resté 20 ans à Ajaccio.
Et ensuite?
Après, j'ai pris ma retraite, quoi. Je me suis retrouvé, j'avais 67, 68 ans, à peu près, quoi.
Combien de milliers d'enfants avez-vous formés?
J'en ai sorti quelques-uns. Enfin, y a Christophe Cazard, là, qui a été quand même champion du monde, cadet junior. Brunet, qui était en première série. Adussèche, moins 15. Vanier, qui est professeur aussi à Lyon. Un bon professeur, d'ailleurs. Et Christophe Fraisse, qui a été 5, 6, 7e français, d'ailleurs. C'est en première série. Voilà. Chancerelle, c'était le plus costaud, mais on n'entend plus parler. Il n'a jamais rien fait.
Et cher Jean, votre dernier match de tennis, c'était quand? En quelle année? Souvenez-vous.
Lorsque j'avais 31, 32, 33, 35 ans, j'avais.
D'accord.
35 ans, 36 ans, oui.
Mais écoutez, cher Jean, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre témoignage, qui est quand même très, très émouvant. C'est très gentil à vous d'être venu à Radio Galaxy. pour nous parler de votre passé dans le tennis qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Merci beaucoup, mon cher.
Merci beaucoup, c'est moi.
15-30.
Une fois de plus, merci Jean de nous avoir témoigné de votre expérience et merci à Antoinette qui nous a aidés pour organiser cette belle rencontre. Sans oublier Jeannine Duverneuil à l'origine de cette initiative. Nous restons en Haute-Garonne avec les tournois qui débuteront à partir du 7 novembre. Des multichances au tac avec des doubles dames dans le cadre d'Octobre Rose à partir du 19. À la même date, les jeunes filles, 15-16 ans, seront à Revel-Saint-Ferréol. Les aînés du circuit clos du Verneuil ne manqueront pas de s'inscrire à Colomiers qui débute le 5 décembre. Le Stade Toulousain, tenant du titre, débute le championnat de France Pro A messieurs le samedi 19 novembre à Arras, puis le 23 à Nantes. Première rencontre à domicile le samedi 26 contre le Blanc-Mesnil au 7 deniers, suivi de la réception du CT Clermontois le mercredi 30, avant de conclure en recevant la Villa Primrose le 3 décembre pour le derby de la Garonne. Pour tout savoir sur la saison 2023 en Haute-Garonne, ne manquez pas de consulter le guide pratique 2023 téléchargeable sur le site du comité de tennis. Tout y est. Les instances, les contacts, les compétitions par équipe, jeunes et adultes. Bref, la Bible du tennis au Garonnais. Vincent Notrecoche prolonge sa chronique de septembre sur l'école de tennis en abordant l'école de compétition. C'est à toi, Vincent.
Bonjour à toutes et à tous. En cette période de reprise des championnats individuels ou par équipe, nous allons aborder le thème de l'école de compétition. Celle-ci se dissocie de l'école de tennis par le fait qu'elle répond à la demande de joueuses ou de joueurs souhaitant progresser plus rapidement. L'école de compétition a pour but de permettre à celles et ceux qui sont en demande de mettre en place un projet sportif plus ambitieux. En fonction du projet personnel, un planning d'entraînement, voire même une programmation, avec différentes étapes entre préparation physique et période de tournoi par exemple, sera mis en place afin de se rapprocher au mieux des objectifs à plus ou moins long terme. Il existe donc différents niveaux de pratique au sein de l'école de compétition, en fonction de l'âge, du niveau, des ambitions et, il faut bien le dire, des moyens financiers de chacun, car cela implique forcément un budget plus important. La formule la plus simple proposée est de 2 entraînements collectifs par semaine, pouvant évoluer en y rajoutant un cours individuel ou même une séance de préparation physique hebdomadaire. Pour les plus ambitieux, d'autres formules peuvent être proposées. Mais cela dépend également des moyens du club. Lorsqu'une demande assez importante existe au sein d'un club, il est évident qu'il faut pouvoir y répondre par des moyens pédagogiques, éducateurs disponibles et compétents, mais aussi par une capacité d'accueil liée aux infrastructures, nombre de cours avec un minimum de cours couverts correspondant à cette demande. Dans les plus petits clubs, jusqu'à 150 licenciés à peu près, soit l'on peut répondre à la demande si elle concerne un petit nombre, et si la qualité des entraînements permet à chacun d'évoluer selon leur volonté, on peut notamment intégrer les meilleurs jeunes sur des cours adultes si les conditions le permettent. Soit le club ne peut pas répondre à cette demande, auquel cas un accord peut être trouvé avec un club voisin pour se donner plus de moyens, aussi bien pédagogiques qu'au niveau des infrastructures, et répondre donc favorablement à la demande. Si cela ne suffit pas, il n'y a malheureusement pas d'autre solution que de proposer le changement de club, même si cela implique un déplacement plus important pour les familles. Dans les plus gros clubs, à partir du moment où l'équipe pédagogique le permet, ou les infrastructures le permettent, tout est possible au niveau des formules proposées. Cela peut aller du plus simple, comme nous l'avons vu précédemment, c'est-à-dire 2 fois par semaine, jusqu'au maximum avec des interventions quotidiennes. Tout peut y être intégré. Des entraînements collectifs et individuels donc, de la préparation physique, de la préparation mentale, du suivi en compétition, des tournées de plusieurs tournois, etc. À noter que la préparation mentale devrait prendre de plus en plus de place dans les années à venir. Une prise de conscience de la part de toutes les instances du tennis semble avoir lieu au sujet de son rôle devenant indispensable. Je conclurai en abordant le rôle primordial que peuvent avoir les parents dans un projet sportif quel qu'il soit. à partir du moment où l'enfant intègre une école de compétition. Les entraînements sont assurés par les éducateurs du club, mais lorsqu'une joueuse ou un joueur doivent évidemment pratiquer en compétition, ils ou elles deviennent tributaires des parents, ne serait-ce que pour le transport. C'est pourquoi un lien doit être développé entre le ou les éducateurs et les parents, afin de maintenir une continuité dans la progression de leur enfant. Les conseils et informations diverses concernant le programme, les tournois, la santé, la fatigue mentale ou physique, la motivation, etc., seront toujours les bienvenus dans le but d'optimiser les performances tennistiques de l'enfant. Que vous soyez compétiteur ou non, je vous souhaite à toutes et à tous des beaux échanges, sur les cours de tennis, bien sûr.
Eh bien, merci Vincent d'avoir souligné le rôle des parents et des clubs dans l'accompagnement vers la compétition. À partir du mardi 8 novembre, vous pourrez télécharger le texte de cette chronique depuis la page Occitennis sur radiogalaxy31.com.
Dernier manche.
Et voici notre quiz tennis avec notre partenaire Sport 2000 de Caser, Fonsorbe et Hauterive.
Sport 2000.
Des réponses à notre quiz d'octobre, mais une seule gagnante, car la plus rapide. Émilie de Colomiers, qui a donné le nom du seul classé numéro 1 mondial pendant une semaine seulement. C'est l'Australien Pat Rafter en juillet 1999. Un nouveau quiz. Reto Schmidli a réalisé une performance qui restera unique dans l'histoire du tennis. Laquelle ? Je répète l'indice.
Avantage.
Reto Schmidli a réalisé une performance qui restera unique dans l'histoire du tennis. Laquelle ? Pour jouer, c'est très simple. Allez sur le site radiogalaxy31.com, cliquez sur l'image Occitennis pour répondre. La première personne à donner la bonne réponse se verra remettre un cadeau offert par notre partenaire Sport 2000 avec les magasins de Caser, Fonsorbe et Hauterive.
Sport 2000.
Toute l'équipe d'Occitennis vous donne rendez-vous le samedi 3 décembre à 12h30 sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain. Dès mardi prochain, vous pourrez toujours réécouter cette émission en podcast sur la page Occitennis de radiogalaxy31.com.
Excusez-moi.
Oui.
Ça vous dirait de prendre un café ?
Je peux pas jouer au tennis.
À très bientôt.
Jeu, set et match.